Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. C'est merveilleux. Nous avons eu hier deux coupures de courant, ce serait cru en Afrique. Dans toute la région. Mais là, c'était... pour que... Chez eux, c'est tous les jours. Hein. Puis surtout quand on est dans la douche, là, il y a des coupures d'eau en plus en Afrique. C'est juste quand on est dans la douche. J'ai remarqué, hein, c'est exprès. Hein. Non, ici, on est bien, on est du bon côté de la planète et il faut qu'on prie pour ceux qui nous gouvernent parce que qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils se rendent compte et que quelque chose soit fait. Amen, c'est vrai, quelque chose soit fait. Prions aussi pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts le 5, que, mon Dieu, que Dieu ait pitié. Vous savez, j'ai appris une chose en luttant contre le cancer. Qui m'avait atteint, donc je suis débarrassé, gloire à Dieu et merci aux chirurgiens. Eh bien, que, le cancer, c'est une vie terrifiante. Le cancer a sa propre vie, enfin, toute maladie a sa propre vie. Le cancer, c'est une, on dit bien, une tumeur maligne. C'est vicieux, le cancer, c'est terrible. Je disais hier soir encore. Plusieurs médecins disaient, voilà, quand ça se déclare en général, parce que ça fait pas mal, on sent rien du tout. Il y a quelques petits symptômes, bon, on pense pas. Il faut faire des dépistages, il faut faire des analyses. Vraiment, faites-le, c'est sérieux, c'est important. Et moi, c'est parce que j'ai fait, parce que j'ai vu un médecin, que voilà, on s'est rendu compte. Il faut toujours, vous avez que... Encore, il faut en prendre soin. Eh bien, j'ai appris que cette maladie, donc c'est une vie qui se nourrissait de ma vie, et grâce à la foi que j'ai dans ce que j'ai compris de la Bible, eh bien, cette vie terrifiante, en réalité, c'était une chose impuissante qui avait besoin de mon aide pour continuer à vivre. Il faut comprendre ça. Elle se nourrit de nous, cette vie-là, jusqu'à nous tuer, mais après elle meurt aussi. Mais elle veut d'abord vivre, alors elle se nourrit de nous, elle veut nous bouffer, elle veut... Et c'est une vie qui est une chose impuissante, qui a besoin de notre aide. Et si nous nous mettons à lutter contre, avec force, et bien avec la foi, regardez, c'est possible, je m'en suis sorti grâce à Dieu. Et j'ai cherché... j'ai refusé de lui donner ce qu'elle voulait. Par exemple, on m'a dit le sucre. Il faut éviter toutes les sucreries. Alors, bon, moi, de toute façon, c'est pas très difficile. J'ai mieux une bonne tranche de salami qu'un chocolat. Donc, ça va. Je me suis battu contre cette vie qui me bouffait. J'y ai mis tout ce que je pouvais. J'ai appris des choses de la part des médecins. Et puis, j'ai suivi ce qu'ils ont dit. Et j'ai pris quelques produits, je ne sais pas si vous connaissez, Beljanski. C'est un homme qui avait trouvé des choses extraordinaires en France, à l'Institut Pasteur, et qui a été chassé de la France parce que, évidemment, ça ne coûtait pas cher, les produits qu'il avait trouvés contre le cancer. Alors, ils l'ont viré, mais carrément, c'est monstrueux. Si vous allez sur... Google, vous regardez, vous tapez Beljanski, vous allez voir, ils sont allés le déloger avec des hélicoptères chez lui. C'était marrant. Parce que c'est tombé au moment où, vous vous rappelez, il y avait eu le scandale du sang contaminé. Et puis lui, il arrive avec cette trouvaille. Ils ont dit, non, on veut pas de ça. C'est pas le moment, on est dans des problèmes terribles, on veut pas encore en plus ça. Et comme lui, il insistait, ben, ils ont fini. Et il est mort en Amérique. Et sa fille a repris tout ça, et c'est des produits, ça s'appelle des produits Beljanski, c'est très bien, c'est pas contre-indiqué, vous pouvez faire votre chimio, vous pouvez faire vos radios, tout ce que vous voulez, au contraire, ça va vous aider. Je dis ça pour ceux qui seraient atteints du cancer ou qui connaissent quelqu'un qui est atteint du cancer. Mais renseignez-vous bien d'abord, pas auprès des médecins forcément, mais en tout cas, lisez au sujet de ces produits, c'est vraiment magnifique. Donc je me suis donné tout ce qu'il fallait, hein, en premier le nom de Jésus. Jésus a dit « Je suis la vie », donc j'ai confronté cette vie qui m'était étrangère, la vie de ce cancer, au nom de Jésus, et la vie de Jésus en moi est plus forte que celle de ces cellules de mort, et j'ai invoqué le nom de Jésus sur ces cellules, et je visualisais qu'ils étaient attaqués comme si c'était une guerre et qu'elles étaient désarmées, attaquées, neutralisées. Et puis j'ai demandé aussi les meilleurs spécialistes, où étaient les meilleurs. Et j'ai trouvé les meilleurs, ceux qui s'y connaissaient le plus, et j'ai fait scrupuleusement tout ce qu'ils m'ont dit. Bon. Non, je ne serai pas condamné par cette vie étrangère à la mienne. Je ne suis pas né avec ce truc-là, je ne mourrai pas avec ce truc-là. Je refuse qu'elle s'installe en moi, qu'elle s'étale en moi, je refuse. Au nom de Jésus, je ne veux pas. Et les frères et sœurs m'ont aidé dans la prière, ils m'ont aidé aussi en... On a beaucoup ri, on a fait des choses amusantes pour pouvoir ne pas parce qu'il faut pas sombrer dans le découragement. Et mes frères et sœurs m'ont beaucoup aidé. On a acheté des films rigolos, on a passé des soirées comme ça. Il faut se donner tout ce qui existe pour le bien. Hein. Je dis pas que c'est des films rigolos qui m'ont sauvé la vie, mais il faut se donner toutes les chances. Et j'ai lutté en compagnie des anges de Dieu aussi. Les anges du Seigneur sont avec nous. Les chrétiens parlent toujours des démons, mais ils oublient qu'il y a les actions des anges aussi. Les anges de Dieu nous aident. Mais il y a toujours une petite voix. Je ne sais pas si vous avez ça en vous. Il n'y a pas de bouton pour éteindre cette voix. Hein. Une petite voix qui commentait mes actions et mes pensées avec une méchanceté incroyable. Il y a même eu... Pas seulement ma petite voix intérieure, mais il y a même eu un prophète, n'est-ce pas? Je dis prophète en me moquant un peu. Un pauvre garçon avec un gros nez qui est venu dans mon bureau pour me dire que j'étais possédé. Carrément, c'était une possession. Et puis que c'était ma faute, c'est tout ce qui arrive. Et cette petite voix en moi me disait, c'est vrai, c'est ta faute si t'as un cancer, parce que t'as péché. Ben oui, j'ai péché. Qui c'est qui a pas péché? Et tout le monde n'attrape pas un cancer. Alors, il faut arrêter. Non, il ne faut pas écouter cette petite voix. Ces méchantes petites voix s'acharnaient à me juger, à me condamner, à vouloir me décourager, à me dire que j'étais foutu. C'était du harcèlement. Du harcèlement. Et beaucoup de chrétiens ne font même plus attention au fait qu'ils sont harcelés par leur petite voix intérieure parce qu'ils ont pris l'habitude. Ils ont pris l'habitude que cette petite voix leur parle et les décourage tout le temps et vient saper leur morale et les miner, les martyriser, leur dire qu'ils valent rien. Et puis, ils ont pris l'habitude, ils croient que c'est vrai et que le mal qui leur arrive, ben, c'est parce que vous l'avez bien mérité. Ah, tu l'as bien cherché, ben, maintenant ça y est, tu l'as, hein, la punition de Dieu. Ben, non, c'est faux, cette voix... Essayez toujours de vous saper le moral, de casser votre foi et de vous détruire en fait. Et c'est ça, la petite voix vous rabaisse. Combien de fois êtes-vous en train de vous excuser par exemple? Il faut arrêter cette histoire de s'excuser toujours. Oh, je suis désolé, excusez-moi, pardon, j'espère que je ne vous dérange pas. Mais c'est une manière de dire je ne vaux pas grand-chose. Arrêtez de vous excuser, c'est stupide. Bon, si vous marchez sur les pieds de quelqu'un, excusez-vous, bien sûr. Face à la maladie, ces petites voix, les voix de toutes sortes, elles vous accusent, et c'est même pas la voix de l'ennemi, c'est même pas la voix du diable, c'est très souvent votre propre chair qui vous dit toutes ces choses-là. Votre chair qui est complètement idiote. Je vous le dis depuis des années, notre chair, notre moi, il est idiot. Il faut l'éduquer. Alors, je voyais quelqu'un, un professeur, qui disait à ses élèves « Éduquons !» Et toute la classe a répondu « Toi-même !» Il y en a un qui a compris. Elle vous accuse. Elle vous accuse, votre chair vous rabaisse. Car vous avez pris cette mauvaise habitude de la laisser parler. Dites-lui « Stop !» Au nom de Jésus, « Stop !» Stop à cette voix cruelle et mettez-la en veilleuse. Quand elle vous parle, dites autre chose. Le contraire. Surtout, ne dites pas. Alors là, ça c'est la... Parce qu'en plus, elle est vicieuse, cette petite voix. Elle va vous faire dire, par exemple, surtout ne dites pas ça, mais qu'est-ce que je suis bête d'avoir pensé que je suis bête. Mais vraiment, faites attention à ce que vous dites. Écoutez-moi bien. Congratulez-vous. On a un chant qui dit, on va chanter tous ensemble. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur, ensemble. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Vous ne ferez pas de progrès dans votre vie. Vous ne réussirez pas à vaincre le mal qu'en relâchant la tension. La tension. Il faut être attentif, mais il faut relâcher la tension. Je me repose sur Jésus qui vit en moi. C'est lui qui est ma victoire. Je me repose. Combien de fois je vous ai dit que la foi, c'est le repos. Quand on a la foi, on est dans le repos. On rentre dans le repos, on est dans le repos. Le combat de la foi, ce n'est pas un combat d'agitation. C'est un combat de repos. C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Je me repose sur le Seigneur. Une personne est vexante, méchante, insultante. Souriez et pensez, tiens, ce soir je vais prier pour lui, je vais le voyer, Jésus va s'en charger. Puis ça va vous faire marrer. Les chrétiens, en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait quand l'apôtre Paul les persécutait? Ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, fais-lui sa peau à celui-là. Il nous embête, il nous persécute, il nous massacre. Occupe-toi de lui. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a jeté en bas de son cheval. Et puis, Paul était complètement effrayé. Qui es-tu, Seigneur? Je suis celui que tu persécutes. Quand quelque chose de mal vous arrive, c'est pas contre vous, c'est contre Dieu. Alors, laissez Dieu agir. Demandez au Seigneur de le faire lui-même. Vous, repoussez-vous. Regardez par exemple les enfants. Plutôt que de leur mettre la pression, vous avez vu à l'école, c'est toujours « peut mieux faire ». C'est jamais bien, c'est jamais 10 sur 10, c'est toujours 9, 5 sur 10. Vous avez remarqué ça? Peut mieux faire, est très doué, mais il n'est pas très zélé, gna gna gna. Mettez en valeur leurs qualités. Mettez en valeur les qualités qu'ils possèdent, ils ont des qualités. Et votre gamin, il va se détendre, il va trouver en lui-même comment faire ce mieux. Mais si on lui met la pression, eh bien, ça va le bloquer, ça ne va pas l'aider, ça va le bloquer. Si tu n'es pas ça, tu n'auras pas de cadeau à Noël. Mais c'est la dernière des choses à dire. C'est méchant, c'est cruel, c'est bête, c'est du chantage, c'est mesquin, c'est affreux. Non, Michel, tu crois à Noël? Bien sûr que non, je ne crois pas que Jésus est né à Noël. Mais on fait des cadeaux aux enfants quand même. Faites pas de cadeaux à vos enfants, vous. Ben, vous êtes un anormal. Tous les autres enfants ont des cadeaux. Pourquoi les vôtres n'auraient pas? Hein? On sait bien que Jésus n'est pas né à Noël. On sait bien que c'est une fête païenne qui a été transformée en fête chrétienne. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est un moment où on passe en famille et puis c'est sympathique. Ne critiquez pas votre gosse, ne vous critiquez pas. Félicitez votre gosse, félicitez-vous aussi. Dans les églises, on nous apprend à louer Dieu. On doit nous apprendre aussi à louer nos frères et sœurs. À se louer soi-même aussi pour les bonnes choses qu'on fait, qu'on a réussi. C'est encore ce que j'ai enseigné vendredi passé. Si vous n'avez pas écouté ma prédication de vendredi passé, écoutez-la. Pourquoi est-ce que nous ne nous louerions pas? Ah, Michel, c'est super. Tu t'es battu, tu as gagné, c'est bien, bravo. Tiens, pour fêter ça, je t'offre une coupette de champagne. Bon, voilà. Faites-vous, louez-vous, congratulez-vous et faites la même chose avec vos frères et sœurs plutôt que de toujours trouver la petite bête, le petit machin qui ne va pas. Nous sommes faits à son image, nous sommes nés de lui. Alors pourquoi dire je suis stupide, je n'y arriverai pas, je suis foutu, c'est ma faute, c'est ma très grande faute d'orthographe, voici comment j'écris girafe avec 3 F. Ça c'était. Je ne me rappelle plus. C'est qui disait ça déjà? Je sais plus, c'est un poète, un grand poète français.
Jacques Prévert.
Qui? Jacques Prévert, voilà, Jacques Prévert. Merci Marie-Claire. Vous n'êtes pas stupide. Vous n'êtes pas stupide. Vous n'êtes pas perdant. Vous n'êtes pas foutu. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes sauvé par le sang de Jésus-Christ à la croix et par sa résurrection. Vous êtes protégé par le Saint-Esprit qui est avec vous tous les jours. Tous les jours, tout le temps. Vous êtes conduit par la connaissance que vous avez des Saintes Écritures. Plus vous en connaissez, plus vous êtes conduit d'une façon précise. Vous êtes aidé et soutenu par les anges de Dieu. Vous êtes tous là si seulement vous le croyez. Mais si vous croyez cette petite voix qui vous dit « Mais t'es bête, comment est-ce que tu peux être bête alors oh. ?» Pourquoi est-ce que vous vous laissez hypnotiser par ces petites voix intérieures ou extérieures? Ces gens qui viennent vous dire « Le Seigneur m'a montré que... » Ben écoute, si tu as montré quelque chose, ne nous dis pas quoi, mais demande-lui de me le lire à moi directement. Je peux aussi comprendre, non? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un bonhomme qui se dit prophète? J'ai le même Saint-Esprit, non? Soyez spirituels et... Moi je dis, quand il y a des prophètes, c'est que ça va mal dans les églises. C'est parce que les chrétiens n'écoutent plus, alors Dieu est obligé de leur parler au travers de quelqu'un. Et puis c'est là que les escrocs se glissent et racontent n'importe quoi. Alors soyez spirituels, et je vous parle par expérience, je l'ai connu moi depuis 68, de ces gaillards et de ces bonnes femmes qui se disent prophètes et prophétesses. Mamma mia! Soyez spirituels et non charnels. Charnel, ça veut dire quoi? Être charnel, c'est écouter votre moi. C'est écouter la vie de tout le monde. C'est écouter votre moi qui se plaint, qui vous accuse, qui râle tout le temps, qui est perfectionniste, qui n'est jamais content, et qui vous dit que vous êtes stupide, foutu. Alors, par votre esprit, parce que vous avez un esprit, prenez le contrôle au nom de Jésus et faites taire cette voix. Elle ne va jamais se taire, mais elle va se lasser quand même au bout d'un moment. Elle va se lasser. La Bible même dit que même le diable au bout d'un moment il se lasse. Alors tu parles de ta propre voix, elle va se lasser aussi. La Bible dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Alors ta petite voix là qui est négative, résiste lui aussi, elle finira par te lâcher. Ça peut prendre quelques temps, mais fais-le, commence, décide, je commence aujourd'hui, je lui dis tais-toi au nom de Jésus. Puis vous n'en faites pas tout un gâteau. Tais-toi au nom de Jésus, je t'entends, tu te tais au nom de Jésus, je peux t'écouter maintenant, c'est fini, c'est terminé. Vous n'êtes pas obligé de lui faire un discours, vous lui dites stop, au nom de Jésus c'est fini, voilà, vous passez à autre chose. D'accord? Dites ce que Dieu dit. Je suis sauvé. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Quand je lis la Bible, c'est Dieu qui me parle. Je n'ai rien à craindre. Il l'a dit. Il veille sur moi. Il l'a dit. Il conduit mes pas. Il l'a dit. Vers de verts pâturages, c'est-à-dire là où il y a de la nourriture, là où c'est beau. Il l'a dit. Je ne t'abandonnerai jamais. Il l'a promis. J'ai de la valeur à ses yeux. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix dans des souffrances épouvantables pour des rien du tout, pour des gens qui n'ont qu'une valeur. Il n'est pas malade. Il y a une chose que vous devez savoir, et je vais vous lire dans Hébreux chapitre 3, versets 1 et 2. Hébreux 3, 1 et 2. C'est pourquoi, frères saints, qui avait part à la vocation céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Qui c'est ce souverain sacrificateur? C'est Jésus, d'accord? Toute la lettre des Hébreux nous parle du souverain sacrificateur Jésus, qui a la prêtrise de Melchisédek, qui est intransmissible. C'est pourquoi mes frères saints, et vous qui avez part à la vocation céleste, on a été appelés par le Seigneur, on le sait, on en a conscience, considérez l'apôtre, c'est-à-dire regardez-le, observez-le, écoutez-le, soyez attentif. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui était fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Alors maintenant, ça veut dire quoi toutes ces belles paroles? Pourquoi je dis ça? Parce que dans cette Bible, c'est écrit... Il est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Mais maintenant, vous allez demander à un ouvrier qu'est-ce que c'est une profession. C'est son métier, c'est un, Mais le mot professer, si vous regardez dans le dictionnaire, premièrement, professer, ça veut dire déclarer hautement. Voilà ce que ça signifie. Alors, ils ont mis dans d'autres versions, il est le souverain sacrificateur notre confession de foi. Mais les catholiques se sont débrouillés pour que ce mot confession, ça soit négatif. C'est-à-dire, on parle de confession, alors on parle de confesser ses péchés. Mais non, là, il est parlé de confession de foi. Ça veut dire la même chose que profession de foi. Ça veut dire déclarer hautement. Regardez, dans un bon dictionnaire français, ça signifie que Jésus est le souverain sacrificateur de ce que nous confessons, c'est-à-dire de ce que nous déclarons spontanément, que nous reconnaissons pour vrai. Voilà ce que ça veut dire. Jésus est le souverain sacrificateur de ce que nous déclarons, proclamons, croyant que c'est vrai, c'est-à-dire qu'il prend cela et il va l'offrir en sacrifice devant son Père, qui le reçoit comme un sacrifice agréable. Ce texte affirme donc que Jésus est le souverain sacrificateur de ce que nous déclarons être vrai, de ce que nous disons en le croyant vrai. Mais est-ce que Jésus peut être le souverain sacrificateur des paroles idiotes et sans foi que vous pensez et que vous dites, comme « Oh, qu'est-ce que je suis stupide, oh, je ne vaux rien ». Est-ce que vous pensez que Jésus peut prendre ça et, comme un souverain sacrificateur, aller dire à son Père « Regarde ce que ton enfant dit, jamais de la vie, jamais de la vie ». Vous vous coupez de la présence de Dieu en pensant être humble, en disant « je suis stupide ». Vous n'êtes pas humble, vous êtes stupide réellement parce que vous ne croyez pas à Jésus. Croyez Jésus, croyez qu'il vous conduit, croyez qu'il vous a sauvé, croyez qu'il vous aime, croyez que vous êtes aimé non seulement par lui, mais par l'Église aussi. Croyez-le. Il est souverain sacrificateur de vos paroles de foi, de ce que vous confessez par la foi, de ce que vous dites. C'est ce qui est écrit. N'est-ce pas vrai? Depuis un mois environ, il y a des gens religieux que nous avons invités, c'est même moi qui les ai invités, à venir nous renseigner, pas nous enseigner, nous renseigner au sujet de leur religion. Alors, c'était très édifiant, hein. Ils nous ont dit que nous n'avons pas la prêtrise, alors que la Bible dit que tout homme, toute femme qui croit en Jésus et qui est lavé dans le sang de Jésus-Christ fait partie du peuple, d'un peuple de prêtres. Eux, ils nous ont dit, pas vous. Vous n'avez pas la prêtrise. Donc, vous n'avez pas le droit de faire des miracles au nom de Jésus. Donc, je vois quelqu'un qui est malade, je n'ai pas le droit de prier parce que je n'ai pas la prêtrise. Digling, 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 digling. Je n'ai pas le droit. Que nous n'avons pas le droit de distribuer la Sainte Cène. On n'a pas le droit. Non. Alors que Jésus a dit, faites ça chaque fois que vous vous rendez. Alors rendez compte, si on fait chaque fois qu'on se rend compte, on va faire 150 fois par jour. Nous n'avons pas le droit de baptiser les gens. Nous n'avons pas le droit parce que c'est. Tout ce qu'on fait, ça ne vaut rien du tout parce qu'on n'a pas la prêtrise. Quelle prêtrise? Celle qu'on reçoit par imposition des mains dans leur église, une fois qu'on s'est fait baptiser dans leur église. Mais quand on s'est baptisé dans leur église, qu'est-ce qu'ils demandent en premier? Allez-vous être fidèle à Jésus? Oui. Allez-vous être fidèle à l'église? Oui. Allez-vous donner votre dîme? Toutes les religions comme ça, elles sont toutes pareilles, toutes pareilles. Si nous ne sommes pas baptisés dans leur église, qui est la seule vraie église au monde, mais c'est minable. Alors on me dira, ah bon, c'est minable, mais bien sûr, ils sont 17 millions, mais c'est quoi sur les milliards de personnes qui sont sur cette terre? Vous me direz, Michel, vous êtes encore moins nombreux. Qu'est-ce que vous en savez? Il y a des chrétiens partout, dans toutes les églises, et nous sommes en communion d'esprit avec tous les vrais chrétiens dans toutes les dénominations chrétiennes, qu'elles soient catholiques, protestantes, mormones, baptistes, témoins de Jéhovah, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Partout là où quelqu'un invoque le nom de Jésus comme fils de Dieu qui est mort pour ses péchés, en croyant qu'il va revenir bientôt, ça c'est un chrétien, c'est notre frère, c'est notre sœur, nous sommes bien plus que 15 millions. Et puis, ce n'est pas une question de quantité. La seule vraie Église au monde. Nous n'avons pas le droit à la compagnie du Saint-Esprit avec nous à chaque instant. Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À qui dit-il ça? À ses disciples. Donc, si vous êtes disciple de Jésus, vous avez droit à la compagnie de Jésus tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ils disent, oui, vous avez le droit, et c'est vrai, Jésus est avec vous, mais pas le Saint-Esprit. Quoi? Ben non, le Saint-Esprit, il est ailleurs. Il n'est pas avec vous, parce que le Saint-Esprit, c'est une autre personne. C'est un autre Dieu. Ah bon? Digging, digging. Oh là là, ils peuvent aller raconter leurs histoires aux ignorants, mais pas aux gens qui connaissent la Bible. Ils peuvent pas. Nous, nous savons en qui nous avons cru. Amen.
Amen.
Apocalypse 1, 6. Nous faisons partie de ce peuple de prêtres rois. Et nous sommes des millions et des millions et des millions sur cette terre. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais confesser? Que depuis 50 ans, je me suis gouré, que je me suis trompé, que Raphaël s'est trompé, qu'il m'a prêché un faux évangile, que je suis stupide, que je me suis fait avoir, que c'était que tous ces chrétiens que j'ai fréquentés, c'était tous des loups ravisseurs. Jamais de la vie. Je sais en qui j'ai cru. Je crois en Jésus-Christ de la Bible. Et je dis, et je confesse, et je proclame avec foi que je crois que Jésus-Christ m'aime moi. Il m'aime moi, même moi, il m'aime. Et Jésus est le souverain sacrificateur de ma confession, de ce que je dis hautement avec foi. Ça, il le prend et il le présente au Père comme un sacrifice qui lui est agréable. Et le Père dit, bravo mon fils, c'est bien. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous dites, oh ben alors ça me trouble ce qu'ils disent ces gens. Oh là là, je suis troublé, oh c'est effrayant. Mais non! On fait semblant, on écoute. Hein, on fait semblant pour qu'ils parlent encore plus. Et puis quand ils ont tout dit, parce qu'ils se sentent, ils croient qu'on a confiance, ben on leur dit, non, on n'est pas d'accord. Hein. Mais si on ne sait pas ce qu'ils pensent, si on ne fait que de lire des bouquins, ils ne disent jamais sur les bouquins ce qu'ils pensent. Ou alors d'une façon telle qu'on ne peut pas comprendre. Mais quand vous les avez en face de vous et qu'ils vous parlent, là vous pouvez comprendre, et là vous pouvez faire un choix. Je ne crois pas ces personnes. Je crois que Jésus est mon sauveur, qu'il est mon guérisseur, qu'il est mon berger, qu'il est mon bon berger, et que je suis membre de son Église que lui seul connaît. Je ne peux pas être trompé par ces gens. Pourquoi? Parce que je connais la voix de mon berger, Jésus. Je connais sa voix. Alors si une autre voix me parle, je sais si elle est vraie ou si elle est fausse. Quand j'entends ma petite voix qui me dit « Ouais, Michel, tu dois encore passer des examens au mois de mars pour voir si le cancer est parvenu. » Oui, ça c'est la loi. Ça c'est le protocole médical. Je vous soumets à ce protocole médical, mais ce n'est pas par manque de foi. C'est simplement parce que c'est le protocole. C'est comme ça que ça doit se faire. Alors je le fais. Est-ce que c'est un manque de foi? Non, c'est simplement de l'intelligence. Non mais... Je sais reconnaître une voix qui me dit des bêtises, qui me dit « Ouais, ils te disent d'y aller parce qu'ils savent bien que ça va revenir ce cancer. » Non, c'est pas vrai. D'accord? On sait reconnaître la vraie voix et la fausse voix. La voix de ma chair ne peut pas me tromper, elle ne peut pas me faire croire que je suis stupide et que je suis foutu. Non. Et que je n'ai pas le droit d'imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Et puis, encore une fois de plus, une fois que j'aurai été baptisé, supposons, dans leur église, et que j'ai reçu l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit, je pourrai prier pour les malades. Mais pas les femmes. Ah non, parce que les femmes, elles n'ont pas droit à cette prêtrise-là. Ah bon? Ben oui, c'est comme dans toutes les religions, macho et compagnie. Non! Je ne crois plus, ma chère, ni ceux qui m'accusent, ni ceux qui viennent me raconter des choses contraires à ce que dit la Bible, ni ce gaillard qui vient me rabaisser pour me dire que je fais partie de l'église du diable. Parce que dans leur livre, c'est écrit, notre église est la seule vraie église, et toutes les autres, c'est les églises du diable. Bon, ben voilà. Donc, je fais partie de l'église du diable. Ben, on va bien rigoler quand on va se trouver devant Dieu. On va bien rigoler quand vous allez voir que vous avez eu tort. On va bien se marrer. Ça va être comme avec les musulmans quand ils se suicident en croyant plaire à Dieu, puis qu'ils se trouvent devant Dieu qui leur dit « tu t'es gouré ». Ils rigolent bien là, je vous jure, ils rigolent bien, ils s'amusent bien là. Celui qui s'est fait zigouiller là à Londres dernièrement. En ce moment, il est en train de se ronger les ongles de son esprit. Parce qu'il s'aperçoit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Ils disent que c'est faux. Moi, je dis que c'est vrai. Pourquoi je dis que c'est vrai? Parce que je connais Jésus. Je sais qui est Jésus. Je sais aussi qui c'est leur prophète pédophile. Boum. Non, mais... c'est pas possible. Soyez spirituels. Croyez ce que la Bible dit et dites la même chose que ce qu'elle dit. Elle nous dit que Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous lui dites « je suis stupide », vous employez le nom de Dieu en vain. Parce que Dieu a dit « mon nom c'est « je suis ». Et si tu dis « je suis stupide », tu dis que Dieu est stupide. Donc, pas besoin de leur imposition des mains pour savoir que Jésus est avec moi par le Saint-Esprit. Pas besoin. Dites ce que la Bible dit, ne dites pas autre chose, parce que Jésus ne peut pas offrir vos paroles négatives en sacrifice agréable à Dieu. Il ne peut pas, non seulement il ne peut pas, mais il ne veut pas. Si vous lisez la Bible, vous connaîtrez la vérité sur Dieu, sur vous, sur les autres, sur les anges, sur les démons, sur la nature, vous connaîtrez. Et cette vérité vous affranchira. Et personne ne pourra vous tromper. Même votre propre voix intérieure ne pourra pas vous tromper. Vous ne pourrez plus vous laisser avoir. Mais nourrissez votre moi avec la parole de Dieu. Parce que si vous nourrissez pas votre moi avec la parole de Dieu, eh bien, votre moi se nourrit de quoi? Des évidences. Ouais, t'as beau dire, Michel, mais quand même, qu'est-ce que je suis stupide. Hein. Nourrissez votre âme, votre moi, votre chair avec la parole de Dieu. Parce que si votre petite voix intérieure cherche à vous déstabiliser, ce qu'elle fera presque toujours, vous lui dites « Stop !» Ce que tu dis est faux. Ce n'est pas en harmonie avec ce que Jésus dit. Vous le savez tout de suite. Même si un ange magnifique, brillant m'apparaissait et me disait des choses qui sont contraires à ce que la Bible dit, mais c'est facile à reconnaître. Hein, supposez, un ange vient me dire, « Voilà Michel,
ferme la caméra, suis-moi.
Laisse tomber, il y a une nouvelle doctrine, il faut que tu mettes tes mains là, et puis que tu viennes fort. Ça sera agréable à Dieu. » Vous croyez que je vais le croire? Mais même si c'est un ange brillant qui apparaît, avec les trompettes et toutes sortes de chants célestes, je ne croirais pas une idiotie pareille. Pourquoi? Parce que d'abord c'est idiot, puis deuxièmement, bah, c'est même pas dans la Bible. Ah, bah si je trouve un verset qui dit qu'il faut le faire, je le fais immédiatement. J'ai lu dans tous les sens, il n'y a pas de verset qui dit qu'il faut se coincer les doigts dans une porte pour être sauvé. Lisons Galates 1:8. Galates 1:8. Qu'est-ce qu'il est écrit là dans Galates 1:8? Tiens, j'ai pas. Galates 1:8. Normalement, je mets des petits. Pour que ça aille plus vite. Je mets des petits papiers. Voilà, je l'ai. Galates 1:8. Mais si nous-mêmes. C'est-à-dire, si moi, par exemple, je viens vers vous, ou si un ange du ciel annonce un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire maudit, hein, c'est grave. C'est grave. Donc si vous-même vous vous dites des choses mauvaises, méchantes sur vous, alors que vous êtes fils de Dieu, vous êtes en train de vous insulter, vous êtes en train d'insulter la création de Dieu. Mais vous n'êtes peut-être pas intelligent comme Osborne, ou vous n'êtes peut-être pas aussi, éloquent que Billy Graham, ou vous n'êtes peut-être pas aussi puissant que Catherine Kuhlman, ou vous n'êtes peut-être pas, je sais pas moi, mais vous n'êtes pas stupide, vous êtes vous tel que Dieu vous a créé, et puis vous faites des progrès petit à petit, même si c'est pas rapide. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Nidali. Rien! Acceptez d'être vous! Aimez-vous vous-même! Tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même. Aime-toi. Congratule-toi. Vous voyez, comment reconnaître si votre petite voix intérieure dit vrai ou si des missionnaires viennent, s'ils viennent et qu'ils, qu'ils vous disent, est-ce que c'est vrai? Il y a des choses qu'ils ont dit qui étaient vraies. La majorité des choses qu'ils ont dit qui étaient vraies. C'est juste ce détail-là. Mais c'est un détail qui a son importance. Si un pasteur, si un curé ou n'importe qui vous dit quelque chose, vous allez savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et vous pouvez savoir si c'est vrai ou si c'est faux si vous connaissez la voix du bon berger. On va lire un autre texte. C'est Jean 10, 1 à 5. C'est Jésus qui parle et qui dit « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Et un peu avant, il dit « je suis la porte ». Donc, il faut passer par lui. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Donc, il est la porte, mais il est aussi le berger. Il faut arrêter d'imiter Jésus. Il est tout. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Vous voyez? Pourquoi est-ce que je vais faire des recherches dans les églises, à gauche, à droite, de toutes sortes de dénominations? Depuis que je suis né de nouveau, je fais ça, j'aime beaucoup faire ça, parce que je respecte les gens. Je ne peux pas croire qu'il y a des millions de mormons qui sont complètement tarés. Donc, je cherche à savoir ce qu'ils croient. Je ne peux pas croire qu'il y a des millions de pentecôtistes qui sont des tarés. Non, ce que je fais, je cherche à comprendre pourquoi ils croient à certaines choses. Je ne peux pas croire qu'il y a des millions de baptistes tarés. Non, je cherche à comprendre. Alors, on a fait la même chose avec ceux du septième jour, on a fait la même chose avec les branhamistes, on a fait la même chose. On cherche à comprendre et à chaque fois, on voit ce qui est faux et on voit ce qui est vrai. Alors, notre foi, ce n'est pas des petits morceaux de ceci, des petits morceaux de cela. Notre foi, c'est ce que Jésus dit. Et nous voyons dans les diverses dénominations, s'ils croient ce que Jésus dit ou pas. Ou s'ils prennent des pages de la Bible pour dire non, ça c'est pas vrai, on n'y croit plus. L'autre jour, ce fameux frère, on y a parlé de parler en langue pour voir ce qu'ils en pensaient. Il me dit, mais nous aussi nous parlons en langue. Ah bon? Je dis, c'est formidable. Il dit, oui, par exemple, là, les deux frères, ils sont américains, ils ont appris le français pour pouvoir parler dans votre langue. Je dis, mais c'est pas miraculeux, ça. Même les prostituées apprennent à parler en anglais pour pouvoir vendre leur corps. Faut arrêter, c'est pas surnaturel, se parler en langue apprise dans les écoles. Ils comprennent pas ce que ça veut dire, ce fameux parler en langue. Et on reconnaît ce qui est vrai, ce qui est faux. Un jour, le Cossack est allé à Jérusalem, il est allé plusieurs fois, mais il y avait un type qui se faisait passer pour le Messie et qui, paraît-il, faisait des miracles. Et il a dit, ah, je vais aller le rencontrer, je vais voir. Alors il parle avec lui, c'est lui-même qui me l'a raconté. Et il ne me l'a pas raconté qu'à moi, il l'a raconté aux étudiants qui étaient là à l'école biblique. Il a dit, voilà, j'ai parlé avec ce bonhomme, mais alors, c'était parfait. Sa doctrine, parfaitement juste, claire, nette, impeccable. À un moment donné, je lui ai dit, c'est pas possible, où est la faille? Et il lui a dit, le conseil qui a levé la main, il dit, et votre épouse, il n'a pas posé plus que ça, et votre épouse, trois points de suspension, elle me dit, ben elle est à Londres, elle m'attend là, il faudra que j'aille la rejoindre dans une dizaine de jours. Tout s'est effondré. Ce bonhomme ne savait pas, ce fameux soi-disant Jésus ne savait pas ce qui est écrit dans la Bible au sujet de l'épouse de Christ. Vous voyez, on peut toujours les démasquer, on peut toujours se rendre compte. Et vous pouvez toujours démasquer votre petite voix intérieure quand elle vous dit des mensonges. Mais c'est à vous de nourrir votre être intérieur avec la bonne parole de Dieu pour savoir quoi? Ce que Dieu dit de lui-même, ce que Dieu dit de vous. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Il est ce qu'il dit qu'il est. Il peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire et vous pouvez faire ce qu'il dit que vous pouvez faire dans la vie. Il faut que vous croyiez ces quatre choses. Ça, c'est le plus important. Une fois que vous croyez ces quatre choses, c'est bon. Alors, qui est-ce que vous allez suivre? Votre petite voix intérieure qui vous rabaisse, qui vous accuse, qui vous traite plus bas que terre? Allez-vous suivre des gens qui vous prêchent des choses qui sont un peu biaisées par rapport aux Écritures? Si vous lisez la Bible, vous apprenez à connaître la voix du bon berger qui dit la vérité toujours, les apôtres aussi. Si vous avez péché et que votre petite voix intérieure vous accuse, ou que des chrétiens vous accusent, ou que qui que ce soit vous accuse, vous ne vous laissez pas avoir, vous vous repentez. Vous allez devant Dieu, vous confessez votre péché, et vous savez que Jésus a dit, c'est écrit, « Je suis fidèle et juste pour vous pardonner toutes vos iniquités, vous purifier. » Voilà. Et bien alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, vous n'êtes pas là en train de supplier Dieu pendant 2 ans jusqu'à ce que vous retrouviez la joie de votre salut. Vous croyez simplement ce qu'il dit sur parole. Et puis vous dites « Merci mon Dieu, Amen ». La voix de Jésus ne condamne pas, elle exhorte, elle corrige en toute douceur. La voix de Jésus ne vous menace pas, elle vous conduit au repentir avec amour. Alors, ces gens que nous avons invités pour nous renseigner au sujet de leur religion sont sincères, ils sont polis, bien éduqués, aimables, tout ce que vous voulez. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et la voix de votre moi, de votre chair, semble parfois avoir raison. Mais elle semble avoir raison. Mais qui a raison? Votre petite voix intérieure ou ce que Dieu dit de vous? Si elle contredit ce que Jésus dit de vous dans la Bible, elle a tort, même si ça semble avoir... Même si ce qu'elle vous dit c'est raisonnable, que c'est vrai. Oh, regarde comme t'es bête. Mais regarde ce que tu peux être stupide. Non. J'ai commis une bêtise, mais je ne suis pas bête. Vous voyez? Supposons, alors, à l'excès, disons une chose terrible. Ce soir, tout à l'heure, quand on va manger la fondue. Et en mangeant la fondue, nous, chrétiens libres, croyant en Jésus qui a changé l'eau en vin et non pas le contraire, nous boirons du vin. Supposons que je me bourre la gueule, que je sois rond à rouler sous la table. Ma petite voix intérieure va me dire, t'es un ivrogne. Je lui dirais, non, j'ai fait une bêtise. Vous comprenez? C'est différent d'être quelque chose ou de faire que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Si quelqu'un vient me jeter la pierre en me disant, t'es un ivrogne, tu t'es roulé sous la table, t'étais complètement bourré. Je dis, non, je ne suis pas un ivrogne, si tu me jettes la pierre, mon vieux, tu vas t'en prendre aussi plein des pierres, parce que c'est pas permis de jeter la pierre aux gens comme ça. Vous voyez? Et vous-même, ne vous jetez pas les pierres. Je me rappelle, avec mon ami Charlie Muller et Daniel Siegenthal, on s'amusait, on prenait des cailloux, puis on les jetait en l'air, on attendait que ça nous tombe dessus, puis on riait comme des malades. On avait 14 ans. Vous n'avez pas joué à ça? C'est idiot, hein? Mais c'est pas parce que je jouais à ça que je suis un idiot. C'était une idiotie que j'ai faite. Oui, voilà. On s'arrangeait pour prendre des cailloux pas trop gros quand même. On n'était pas... Hein? Et la voix de votre moi, la voix de votre chair, semble avoir parfois raison. Si elle contredit ce qui est écrit dans la Bible, elle a tort. Alors, soyez spirituels et dites... C'est assez, stop, Amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs, de les aider à être virils dans leur foi, d'arrêter de se faire rouler dans la farine par des faux prophètes, par des gens sympathiques, gentils, mais qui disent des bêtises, et par leur propre voix charnelle. Dans le nom de Jésus, je te le demande, Amen, Amen. Au revoir.